Nous sommes toujours en compagnie de Hugues, un nouvel invité, tout de suite, et nous allons parler, il me semble, d'économie.
Absolument, pour cette nouvelle émission, premier invité, l'économie intelligente, on va parcourir dans cette émission des visions originales de l'économie. L'économie intelligente, ça peut aussi bien sûr être l'économie solidaire, l'économie circulaire, économie écologie, et ça peut être aussi l'économie au service des petits épargnants et cette intelligence économique du quotidien qu'on va aborder, un des sujets qu'on va aborder avec Loïc Abadi. Merci Loïc Abadi d'être avec nous.
Bonjour, oui, bah tout à fait, hein, voilà.
Et bienvenue, vous êtes investisseur individuel en bourse. On va refaire un peu votre parcours, mais à la base, vous êtes une formation d'ingénieur spécialisé en économie. Et finalement, c'est votre spécialisation en économie qui va prendre le pas, puisque vous avez en gros fait une culbute sur votre PEA individuel de 20 fois. Voilà. Alors, est-ce que ces chiffres, alors sur plusieurs années, évidemment, hein, je crois que c'est sur une vingtaine d'années, ces chiffres, vous les avez partagés? Est-ce que ça a été un peu authentifié, vérifié par des collègues?
Ah oui, tout à fait. Hein. Ça a été vérifié, bien sûr, hein, parce que je travaille avec des sociétés qui vont publier mes conseils, et donc forcément, elles me demandent des preuves pour que on ne va pas balancer comme ça n'importe quoi. Donc bien sûr, j'ai donné des preuves. Hein, ça.
Alors, vous avez donc sur votre site loicabadi.com, on va détailler un peu tout ce que vous proposez, mais il y a en gros des formations, il y a aussi une newsletter que vous proposez. Alors la newsletter, je pense qu'elle est, il me semble qu'elle est gratuite, par contre les packs sont payants, mais on va redétailler tout à l'heure tout ça. Vous collaborez avec Panthéon Recherche et Revenu Gagnant également, et puis vous êtes interviewé régulièrement dans des sites web spécialisés, des médias spécialisés en économie. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un ovni dans le monde économique qui s'est construit un peu lui-même tout seul, qui a le profil que pourraient avoir pas mal d'épargnants finalement?
Oui. Déjà, les épargnants individuels, ils ont quand même un seul avantage sur les institutionnels, et c'est un avantage qui est vraiment énorme, c'est le fait de pouvoir rentrer sur des petites et moyennes entreprises, donc des petites capitalisations. Les institutionnels qui gèrent 500 millions d'euros, 1 milliard d'euros ou plus, ils peuvent pas acheter des parts importantes dans ces PME, puisque s'ils le font, ils vont provoquer un décalage de cours gigantesque, alors que les petits épargnants, ils peuvent le faire. Et c'est là qu'on a les meilleures anomalies de marché, les valeurs les plus décotées quand on sait les chercher. Donc il faut surtout pas croire que parce qu'on est un petit épargnant, on est désavantagé systématiquement par rapport au gros.
Vous en êtes la preuve vivante, c'est une bonne nouvelle, parce que pour une fois, j'allais dire pour une fois que c'est le cas, ça mérite d'être souligné et de justement d'essayer de creuser pour comprendre votre technique et qui s'est créée au fil du temps. Vous avez mis en place sur des bases pragmatiques, sur une réflexion personnelle, cette technique?
Alors voilà, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs à mes débuts, hein, notamment en 2000, 2001 avec le crash de l'internet. Là, j'avais pas encore vraiment tous les ratios financiers, les formes, l'analyse financière en tête. Je savais pas évaluer correctement, je dirais, la valeur d'une entreprise. C'est pas très compliqué, mais à l'époque, je faisais ce que beaucoup font maintenant. Quand on parle avec des personnes qui s'intéressent à la bourse, elles ne pensent qu'à l'avenir, en fait. Donc elles construisent un rêve. On va dire, l'hydrogène, c'est un secteur porteur, j'ai envie d'acheter des actions hydrogène parce que ça va se développer beaucoup à l'avenir, ou l'intelligence artificielle va beaucoup se développer à l'avenir, donc j'ai envie d'acheter ça. Et du coup, elles oublient complètement de regarder la valorisation des entreprises, des ratios financiers simples. Ce qu'il faut faire, en fait, quand on fait de la bourse, paradoxalement, c'est penser au passé, au présent, c'est regarder qu'est-ce qu'une entreprise a pu réaliser dans le passé, les preuves, le track record de ce qu'elle a pu faire, et puis sa situation présente, donc quels sont ses capitaux propres, qu'est-ce qu'elle a produit comme bénéfice cette année, des choses toutes simples, toutes basiques. Et là, tout de suite, quand on fait ça, on se trompe beaucoup moins. En fait, il faudrait acheter une action comme si on était un entrepreneur qui veut racheter la pharmacie de quartier, qui va négocier le prix de rachat d'une pharmacie de quartier ou d'un supermarché.
Il faut être convaincu que ça va être une affaire rentable et avoir bien creusé pour vérifier ça, en fait.
C'est ça. Et on va chercher, moi, en tout cas, c'est ma démarche. C'est ce qu'on appelle l'investissement dans la valeur, l'investissement value. On regarde des entreprises qui vont décoter par rapport à ce que devrait être leur valeur réelle. Donc, ça, y a, évidemment, ça s'apprend. C'est un petit peu plus compliqué que de rêver, que de faire des rêves sur l'avenir, parce que c'est des chiffres. Mais c'est pas non plus de la folie. Il n'y a pas besoin d'être expert comptable bac plus 5 pour pouvoir faire ça. Il y a quelques ratios financiers simples à connaître. Aujourd'hui, le gros progrès aussi par rapport à il y a 20 ans, c'est qu'on a des outils de filtrage robotisés, automatisés, on appelle ça des screeners. Donc ils vont filtrer pour vous, vous leur donnez un critère, vous leur dites je veux par exemple une entreprise dont le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires va être inférieur à 0,7 ou une entreprise dont le ratio valeur entreprise sur EBITDA sera inférieur à 6. Ou les deux en même temps, et le robot, il va automatiquement filtrer dans sa base de données 8000 actions, et il va vous trouver les quelques dizaines qui répondent à ces critères. Donc ça vous gagne un temps fou.
Et justement, donc, quand on participe, quand on s'abonne là, sur les formules payantes, sur votre site, est-ce qu'on a accès à la fois à la méthode et aussi à votre sélection? Parce que là, vous parliez par exemple avec ce filtre d'avoir isolé 8000 entreprises. On va peut-être pas investir dans les 8000. Donc là, vous prenez en main cette analyse-là pour la finaliser et sortir quelques pépites.
C'est ça, oui.
Et en s'abonnant, on y reviendra tout à l'heure, il y a plusieurs formules que vous proposez. On a accès aux fruits de votre travail finalement.
Voilà. Alors, je propose deux choses en fait. Il y a les formations d'un côté et les lettres, les abonnements mensuels, les lettres de conseil de l'autre côté. La formation, c'est pour apprendre un investisseur à devenir autonome par lui-même. Donc un investisseur qui achète une formation, il aura toute la méthode et après il sera capable de par lui-même de trouver ses propres actions en économisant un maximum de temps, parce que le but c'est pas non plus de passer ses nuits à chercher des actions ou à faire... on a tous un travail, on a une vie de famille, on a d'autres choses à faire, donc il faut que le temps investi reste raisonnable. Donc ça c'est les formations et les lettres de conseil, là je donne les valeurs auxquelles je m'intéresse à mon propre niveau, quoi.
Alors justement, vous expliquez dans votre parcours que avec ce que vous avez pu développer, les sommes investies dans les PEA, vous avez donc réinvesti une partie, vous le racontez, dans une assurance or en Asie. Il faut rappeler que le PEA, il y a un certain risque. On est quand même sur un investissement, mais vous allez répondre à ça. Quelle est la nature du risque? Est-ce qu'il y a certains PEA qui sont plus risqués que d'autres? Et aussi, vous avez sécuriser une partie de vos avoirs sur l'assurance or en Asie. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible là aussi à monsieur tout le monde? Et est-ce que c'est des choses que vous enseignez, que vous partagez sur votre site?
Alors voilà, les assurances or en Asie, oui, alors j'ai une formation pétrole et or notamment qui explique ça, mais bon, c'est effectivement assez simple à réaliser, mais on peut acheter de l'or en ligne maintenant par internet de façon totalement sécurisée. Alors moi je l'ai fait en Asie parce que mon épouse est vietnamienne, donc on a quelques attaches en Asie. On a des solutions en Europe aussi qui sont tout à fait valables, donc ça s'est beaucoup démocratisé. Quand vous achetez comme ça de l'or en ligne, il est gardé dans un coffre fort avec des contrôles, des auditeurs rigoureux. C'est pas de la spéculation dans le vent, quoi. C'est une bonne assurance. Dans le contexte actuel, on a des déficits publics vraiment énormes, qui sont des politiques vraiment budgétaires très dangereuses, je trouve, aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, ils en sont à 6-7% de déficit public par rapport au PIB. Donc ça risque vraiment d'évaluer la valeur de la monnaie. Et on s'aperçoit bien, là, quand on regarde des graphiques sur l'or, que le métal a envie de monter.
Alors justement, pour la partie que vous avez gardée sur votre PEA, qui est en euros, puisque c'est en France, si j'ai bien compris, s'il y a un crash de type dévalorisation, de dépréciation de l'euro. Vous parliez du dollar, ça paraît sur le dollar aussi. Est-ce que le PEA forcément est indexé sur l'euro? Il y a pas. Est-ce que vous avez mis une partie aussi dans d'autres monnaies, que ce soit le franc suisse, que ce soit le dollar,
alors,
que ce soit d'autres monnaies?
Oui, ça c'est une très bonne question. Alors paradoxalement, les dévaluations monétaires elles-mêmes ne sont pas très si dangereuse que ça pour les marchés actions. On peut regarder, il y a un cas vraiment flagrant qui est la Turquie en 2022. La lire turque, tout le monde sait que c'est une des pires monnaies du monde, qu'elle n'arrête pas de se dévaluer, qu'elle va perdre 50% de sa valeur par an. Quand on regarde un ETF, c'est-à-dire on va dire c'est une sorte de fonds qui va reproduire le cours de l'indice des actions turques, en 2022, cet ETF a fait plus 80% libellé en dollars US. Donc dans la monnaie, je parle pas de la monnaie turque. Donc ce qui se passe en fait, c'est que beaucoup d'entreprises qui sont cotées en bourse, elles sont relativement internationalisées. Elles vont acheter des produits en dollars. Elles vont donc la monnaie dans laquelle elles vendent leurs produits se dévalue, elles vont juste vendre leurs produits plus chers. Une valeur pétrolière, par exemple, qu'elle soit cotée en euros ou qu'elle soit cotée en dollars ou en quoi que ce soit, peu importe, le pétrole, il sera toujours vendu en dollars. Donc, ce qui arrive à l'euro n'a pas d'importance. Mais même des voitures, des ordinateurs, tout ça, ça s'indexe sur la monnaie de référence
en fait,
pour l'instant qui est le dollar. Donc,
finalement, le seul impact sur des cas comme celui que vous citiez en Turquie, sur la lire turque, si ça arrivait sur l'euro, c'est que la personne qui quitte le pays, qui va dans un pays d'une autre monnaie, donc le Turc qui vient en Europe ou qui va aux États-Unis, ou si c'était la France, le Français qui va en Suisse, par exemple, il va être pénalisé sur le coût de la vie dans le pays qui a moins dévalué. Mais sinon, il n'y a pas de risque majeur, à votre avis, sur l'économie européenne.
Je vais même plus loin. Le citoyen américain qui aurait acheté en 2022 des fonds d'action turque aurait gagné plus que n'importe qui dans sa propre monnaie en dollars US aux États-Unis, parce que le fonds l'ETF turc en 2022 a explosé tous les autres indices en dollars US. Donc c'est encore même mieux que ça. Par contre, il y a ce qui menace le PEA, les actions, c'est plus les récessions économiques. Alors quand on a une récession, effectivement, là on peut avoir des baisses importantes des marchés actions, et là ça impacte beaucoup la valeur. Donc il faut avoir des outils pour prévoir ces récessions. Et si on sait les prévoir, on a en PEA ou hors PEA des solutions pour s'en protéger. On a des solutions de protection qui vont... Il y a des ETF baissiers à levier 2, par exemple, qui s'appelle le BX4, notamment. Si on achète du BX4, quand le CAC 40 perd 1%, ce BX4 va monter de 2%. Donc il permet de gagner de l'argent à la baisse ou de protéger un portefeuille qu'on souhaiterait protéger.
Est-ce qu'il y a justement à ce niveau-là des différences entre les différents types de PEA en termes de risque, que ce soit celui qui est appelé classique bancaire, celui qui est classique assurance ou celui qui est dédié au PME, ils sont tous sur le même niveau de risque ou pas, à la base?
Alors... C'est difficile. Non, aucun PEA. Alors déjà, il y a un seul, faut bien être clair, du point de vue fiscal, il y a un seul type de PEA. Il y a le compte PEA, c'est une seule chose. Après, les établissements bancaires qui gèrent pour le compte de leurs clients, ils vont proposer toutes sortes de formules et toutes sortes de risques, effectivement. Mais c'est assez standardisé. En gros, c'est quand même très corrélé au CAC 40. Et je pense que quand on est investisseur individuel, on doit viser mieux. Le CAC 40 n'a quand même pas rapporté tant que ça sur une vingtaine d'années. S'il fait 3-4% par an, c'est bien maximum. Donc, c'est pas suffisant, quoi. Si on veut réussir en tant qu'investisseur, il faut viser beaucoup plus. Donc pour ça,
pour moi, la
seule solution, c'est la gestion individuelle. Il faut le gérer par soi-même, il faut acheter ses propres actions.
Ouais, c'est ce que vous faites. D'ailleurs, je rebondis sur ces rendements moyens. Justement, là, en juin 2023, vous publiez un article dans le média ABC Bourse. Vous disiez en gros 2% de rendement moyen sur l'épargne financière, c'est pas acceptable. Et je pense que c'est compte tenu aussi de l'inflation. Finalement, on perd de l'argent. Et donc, c'est pour ça que vous pensez qu'il faut se réapproprier la gestion personnelle de son PEA. Et j'en viens aussi au contenu de votre site, où il y a trois portefeuilles complémentaires, différents. Donc, notamment, vous parliez de crise, il y a le portefeuille anti-effondrement. Est-ce que c'est basé aussi sur votre façon d'avoir géré les crises, je crois, notamment au niveau des subprimes? Comment vous avez géré les différentes crises, vous, et comment ça a pu influencer aussi la création de ce portefeuille anti-effondrement?
Alors, ce portefeuille anti-effondrement, lui, il répond à une attente que j'avais de certains de mes abonnés qui étaient inquiets sur l'avenir de l'Europe. Donc, ils souhaitaient, bon, moi aussi, c'est une inquiétude que je partage en partie, je pense qu'on ne peut pas tout miser, tout ce qu'on a sur l'Europe. Alors, le PEA, c'est parfait fiscalement pour investir sur les valeurs européennes. Mais on peut avoir aussi des comptes, c'est le but de ce portefeuille, donc d'être en dehors de l'axe européen et de se diversifier. Alors, il a deux axes, ce portefeuille, il est donc sur les pays émergents, qui sont vraiment... Alors, les pays émergents, ils ont sous-performé massivement les marchés depuis 2010. Donc, il y a des grands cycles comme ça qu'on regarde. Il y a des cycles où les pays émergents montent plus vite que les marchés matures et d'autres où, au contraire, ils sont à la traîne. Donc là, ils sont à la traîne depuis 12 ans à peu près. Donc, on est vraiment dans un bas cycle, je pense. On est dans un creux. Et je pense qu'on va repartir vers un cycle de surperformance des pays émergents comme ça a été le cas de 2001 à 2007.
On peut le sentir un peu, notamment grâce à l'émergence, même politique, économique, même politique des BRICS. Ça fait partie de ce que vous ressentez.
Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était l'idée, c'était de proposer aux investisseurs une autre thématique. Donc elle est axée pays émergents et énergie. Donc il y a les deux secteurs dans ce portefeuille qui permettent de diversifier, de ne pas avoir tout sur l'Europe. Quoi. C'est, voilà. Alors après, pour répondre à votre deuxième question sur les crises, on a des indicateurs économiques qui permettent de prévoir les crises. Donc j'ai très bien réussi à le faire sur 2008. 2008 ayant été une de mes toutes meilleures années en bourse quand le marché s'est gamélé de 50%. Je pourrais être tout à fait honnête, cette année... les indicateurs annoncent aussi, au moins la courbe des taux annonce un risque de récession aussi, mais c'est beaucoup moins clair comme signal qu'en 2008. À mon avis, le contexte actuel ressemble plus au contexte de 2000 que de 2008. En 2000, on avait des marchés fragmentés, une partie a baissé. Je pense que le secteur des technos, de l'IA qui est en pleine bulle, les valeurs du luxe sur le CAC 40 vont baisser. Mais... je pense que certaines petites entreprises des côtés, les pays émergents, le secteur de l'énergie, des matières premières, tous ces secteurs-là vont bien s'en sortir, même s'il y a une crise qui arrive, ils devraient résister. Ça avait été le cas en 2001-2002, pendant le marché baissier de 2001-2002.
Vous publiez d'ailleurs, il me semble, c'est sur votre Twitter, sur votre compte Twitter, un récapitulatif sur justement le fait que finalement ce sont les valeurs liées à l'énergie qui sont les plus puissantes. Vous en parliez à l'instant, les pétroliers, quoi. Et oui. Est-ce que comment se situe vous dites notamment Aramco, qui est un des leaders mondiaux, gagne plus d'argent que Apple, Microsoft et Google réunis. Donc ça fait réfléchir. Comment se positionne Total dans ce marché, à votre avis? Est-ce que c'est un bon est-ce qu'il y a des bons signaux? Est-ce que c'est comme Aramco ou d'autres pétroliers?
Alors, Total est au niveau valorisation, il n'y a pas de souci avec Total, c'est une bonne valeur. Donc, le secteur pétrolier, pétrole-gaz, en fait, c'est un peu comme les pays émergents, il a ses cycles, donc il a des cycles de surperformance, des cycles de sous-performance. Les performances du secteur pétrolier ont été excellentes de 2001 à au printemps 2008. Après, surtout après 2015, au contraire, c'est un secteur qui a été vraiment à la traîne jusqu'en post-Covid. et qui commence à redémarrer maintenant. Je pense là aussi qu'on va vers un cycle haussier assez significatif, hein, de 5-10 ans sur le secteur pétrole-gaz pour un tas de raisons. Donc Total est bien placé. Il y a des valeurs encore beaucoup plus, encore bien meilleur marché que Total, hein, si on fouine un peu dans la cote. Je donne un exemple, la polonaise PKN Orlen, qui est plutôt dans secteur aval raffinage, mais qui produit aussi un peu, elle a vraiment des ratios très décotés. C'est assez amusant d'ailleurs de quand il y a une bon le raffineur Esso en France quand on pense au raffinage du pétrole en France, on se dit mais ça c'est un secteur horrible, la consommation de pétrole en Europe baisse, c'est un marché complètement déclinant, il y avait des surcapacités de raffinage en Europe, enfin vraiment c'est une entreprise dans laquelle personne n'aurait envie d'investir, et pourtant elle a fait x10 en 2 ans, c'est-à-dire qu'on était en début 2022 ou fin 2021, on était à 7,5 et aujourd'hui elle se bat là à plus de 80 euros. C'est le genre de paradoxe qu'on peut résoudre en faisant une vraie analyse financière.
Ce que vous aviez fait, vous aviez pu anticiper sur la valeur Esso ?
Alors celle-là, je l'avais conseillée, hein, notamment pour Panthéon Recherche, oui, je l'avais conseillée, pas au plus bas, hein, j'ai pas la prétention d'être parfait, mais on l'avait repéré dès 13 euros, quoi, des 12-13 euros, donc elle a fait quand même un bon parcours depuis, quoi.
Comment ça se passe justement, les liens entre ces, on pourrait dire, c'est pas qu'une génération, mais c'est qu'il y a pas mal de, aussi dans la génération, si vous êtes un peu au-dessus, mais de ces trentenaires, quarantenaires qui ont une vision pragmatique de l'économie, et vous parliez de Panthéon Recherche, comment ça se marche, comment ça fonctionne cette collaboration entre les différents sites, les différentes initiatives, toutes, je pense, basées sur un socle commun d'intelligence économique, finalement, de rationalité, de concret.
Alors oui, ce sont des sites pour lesquels il y a plusieurs experts qui collaborent. Il n'y a pas que moi, hein, que ce soit Panthéon Recherche ou Esprit Argent. Enfin, donc il y a plus dans ces sites-là. L'intérêt, c'est d'avoir des sites multi-auteurs qui vont proposer différents thèmes d'investissement. Moi, je vais vraiment être spécialisé dans le long terme, dans l'investissement dans la valeur à long terme. Et il y aura d'autres auteurs qui vont proposer des choses à plus court terme, des choses sur les crypto-monnaies, des choses qui sont pas trop de mon domaine de compétence, mais ça permet comme ça d'avoir une compétence plus complète que s'il y avait un seul auteur.
Vous en parliez, le PEA, c'est un investissement à long terme. Il faut rappeler aussi pour les auditeurs en fait, si on, après 5 ans, on peut en gros retirer en partiellement, hein, si vous me direz, si je ne me trompe ou pas, partiellement ou totalement, sans trop de pénalité, sans pénalité. Par contre, si c'est avant 5 ans, sauf cas particulier, on est pénalisé à hauteur de 30% si je ne me trompe pas. Les cas particuliers, c'est évidemment licenciement, invalidité, mise à la retraite ou reprise d'une entreprise sous certaines conditions. Bien sûr, décès, ça en fait partie. Mais donc, il y a quand même un engagement sur 5 ans. Est-ce que là, en ce contexte de crise où il y a beaucoup quand même d'économistes qui tirent la sonnette d'alarme, on peut se projeter sur des périodes comme ça? Est-ce que si aujourd'hui vous deviez commencer avec la connaissance que vous avez, évidemment, est-ce que vous vous lanceriez?
Oui, parce que il y a vraiment, il y a autant en 2007, quand on était en 2007, tout était cher. C'est-à-dire que les petites entreprises, les pétrolières, les valeurs énergie renouvelable, les valeurs techno, tout était surévalué. Donc tout s'est cassé la figure en même temps. Là, c'est pas le cas. On a des secteurs qui sont beaucoup trop chers et on a des secteurs, au contraire, qui sortent de 12 ans de sous-performance, qui sont complètement bâtis et qui sont pas chers. Ça ressemble plus au marché de 2001. Et en 2001, il y a des secteurs qui ont bien monté en plein marché baissier. Il y avait des opportunités. Après, il y a autre chose qu'il faut savoir aussi sur ce délai de 5 ans. Pour ceux qui n'auraient pas, soit qui n'ont pas envie de démarrer tout de suite, ou qui n'auraient pas les ressources financières pour démarrer tout de suite un PEA de façon significative, il est tout à fait possible d'ouvrir un PEA en mettant une centaine d'euros dessus, en mettant rien du tout et en le laissant dormir. Le gros avantage, c'est que ça va faire tourner le compteur des 5 ans plus tôt. Donc, vous ouvrez votre PEA maintenant, vous mettez rien dessus, à la limite, vous démarrez vos investissements boursiers dans 2 ans si vous voulez, mais dans 2 ans, bah, vous n'aurez plus que 3 ans à attendre, donc c'est quand même intéressant.
Ouais, c'est un conseil qui libère l'épargne tout en profitant du système PEA, de ne pas être bloqué pendant les 5 ans, c'est de commencer tout de suite, même si on n'a pas beaucoup de fonds et le jour où on veut mettre, on est presque libre si les 5 ans sont passés.
C'est ça.
Je voulais en venir aussi au portefeuille. On a parlé du portefeuille que vous proposez, anti-effondrement, basé notamment, vous disiez, sur les pays émergents. Il y a votre domaine de compétence centrale, le portefeuille PEA. Tous ces portefeuilles sont aux alentours des 100 euros. 100 euros, donc c'est à l'année, c'est ça, ou c'est au trimestre ou au mois?
Non, c'est proposé à l'année. Hein,
d'accord. Et donc là, on reçoit une sélection. On reçoit une sélection de valeurs, c'est ça, sur vos analyses économiques?
C'est ça, donc pour le portefeuille PEA par exemple, donc lui il est à 135 euros par an, donc c'est une sélection, donc il y a deux portefeuilles proposés, deux profils, un portefeuille plutôt défensif, un portefeuille plutôt offensif avec plus de pays émergents européens style Pologne. Il y a une analyse, je fais une vidéo sur le contexte économique, un point sur l'économie générale, un point sur les marchés, et puis une autre vidéo dans laquelle je fais un reporting de l'actualité des valeurs du PEA. Donc toutes les valeurs qui sont dans le PEA, je dis bah tiens, celle-là elle a publié ça, il s'est passé telle actualité sur cette valeur pour suivre la vie des entreprises. Et puis, je propose aussi un dossier idées complémentaires au premier trimestre. Donc, ça permet pour les personnes qui voudraient avoir plus de possibilités de valeurs dans lesquelles investir, bah, elles peuvent aller dans ce dossier. Elles auront encore des idées supplémentaires.
Donc, ça permet d'avoir votre sélection, finalement, pour tous ces PEA, tous ces portefeuilles. Ils sont tous sur une philosophie de 5 à 10 ans, ou c'est vraiment plutôt le portefeuille PEA qui est orienté vers ce long terme?
Oui, c'est du long terme. Hein, alors, je ne vais pas forcément garder tout le temps des valeurs 5 à 10 ans, mais en tout cas, quand j'achète une valeur, en général, c'est pour une durée supérieure à 1 an, ça c'est sûr. Le seul cas où je vais faire un peu du court terme, c'est quand on est en situation de récession, de crise économique. Là, je prends ce qu'on appelle des positions baissières de protection qui sont basées sur des indicateurs de sentiment. Et là, c'est des allers-retours qui vont durer quelques semaines à 3 mois. Mais c'est vraiment pas fréquent. Mais quand il faut le faire, je sais le faire.
D'accord. Et donc, de façon concrète, la gestion du portefeuille PEA, une fois qu'on a accès aux informations, à vos analyses, est-ce que c'est concrètement facile? On peut le faire depuis chez soi avec son ordi, on a des codes d'accès un peu comme sur l'accès à nos comptes bancaires et on peut sélectionner des valeurs, quitter certaines valeurs, etc. Comment ça se passe concrètement pour l'internaute,
Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment facile maintenant, on le fait depuis chez soi, depuis son ordinateur. Tous les sites de brokers, on va pas en recommander un en particulier, il n'y a pas de raison, mais ils ont tous des tutoriels pour apprendre à se servir de leur site. C'est pas très très compliqué. Hein,
Donc il faut quand même passer par un site de broker, c'est pas le site de la banque en elle-même.
Ça peut être le site de la banque en elle-même, mais souvent, ils ont si on passe vraiment par un réseau bancaire classique, ils ont des commissions qui peuvent être significativement plus chères. Par contre, tous les grands réseaux bancaires, que ce soit le Crédit Agricole, la Banque Postale, le Crédit Mutuel, etc., ils ont tous leur propre broker en ligne. Donc, on peut tout à fait, si on est dans une banque, on peut tout à fait prendre la solution en ligne de cette banque pour acheter ses actions et ça fonctionne très bien.
J'en profite pour vous demander, je vois souvent cette pub sur YouTube, sur eToro, où on peut faire du copier-coller sur les choix d'un investisseur. Alors évidemment, j'imagine que ça dépend de qui on fait des copier-coller. Si c'est Loïc Abadi, j'imagine que c'est bien. Est-ce que c'est une solution intelligente pour vous qui est bien vue, ou est-ce que vous en êtes plus dans un petit clin d'œil publicitaire qui n'est pas réellement efficace?
Alors eToro, je connais pas en détail ce broker-là. Il faut juste vérifier qu'il c'est pas un broker français ou même. Donc, est-ce qu'ils ont j'avais regardé comme Trade Republic hein, d'ailleurs, ils n'ont pas forcément accès à toutes les petites et moyennes entreprises. C'est quand même des brokers qui parfois vont proposer principalement des grosses capitalisations. À mon avis, ce genre de broker, il va plus convenir à des traders très actifs qui vont faire des opérations tous les jours qu'à des investisseurs long terme. Voilà.
Et justement, donc, les brokers, donc, les services en ligne des banques, des grandes banques françaises, là, on peut accéder aux petites valeurs, aux small capitalisations que vous recommandez?
Ah oui, ça bien sûr, tous les brokers en ligne qui s'appartiennent à une banque ou qui n'appartiennent pas à un réseau bancaire classique, hein, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui dont c'est le cas, oui, il n'y a pas de problème, hein, sur les petites capitalisations. Après il faut vérifier sur si on veut par exemple pour le portefeuille anti-effondrement, là je suis obligé quand même de recommander certains brokers de façon précise, parce que là on a besoin d'un accès au marché émergent, on a besoin d'un accès au marché asiatique, au marché anglais, que tous les brokers français ne vont pas proposer correctement.
Donc oui, donc là, il y a une petite réserve pour les personnes qui voudraient justement investir, enfin répartir sur les marchés émergents. J'en profite pour reprendre une de vos chroniques sur ABC Bourse. Vous parlez des small capitalisations japonaises.
Oui.
Alors, est-ce que justement... justement sur ces small cap qui ne peuvent pas intéresser les grands groupes, comme vous le disiez tout à l'heure, tels les fonds de pension avec des sommes trop petites d'investissement, c'est une chance pour l'investisseur. Alors quelle est la spécificité, quel est le bon plan particulier sur ces petites capitalisations du côté du Japon?
Alors, ces petites capitalisations du japonaise, c'est tout simplement que quand on fait tourner... Moi, quand je fais tourner un screener, donc un robot de filtrage sur critères financiers, sans mettre d'a priori sur les pays, on se rend compte que les small caps japonaises fournissent une part vraiment très importante des résultats qui ressortent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de valeurs de petites, moyennes capitalisations décotées au Japon que dans d'autres pays. Parce que je pense que les investisseurs japonais sont très très traditionnels, n'aiment pas sortir des sentiers battus. Et du coup, les petites capitalisations sont souvent négligées alors qu'elles ont des ratios vraiment attractifs. Donc il y a... Mais là, depuis quand même, hein, depuis 4-5 mois, ça a commencé à décoller. Il y a vraiment des hausses significatives, hein, sur toutes les valeurs qu'on avait recommandées. J'avais fait un dossier sur les valeurs japonaises. Et ce dossier-là, il a dû prendre une vingtaine de pourcents en l'espace de quelques mois. Donc il y a une hausse significative. Mais enfin, le potentiel n'est pas épuisé du tout. Hein.
Ouais, donc ça continue à figurer dans ce programme sur les valeurs émergentes. J'ai oublié d'en parler, mais évidemment, on peut souscrire à l'ensemble des trois programmes. De conseils. Vous revendiquez environ 2000 personnes sur ces programmes payants et puis 1500 abonnés sur votre newsletter qui est gratuite, on le rappelle. Finalement, c'est évidemment pas ce revenu, c'est un revenu complémentaire pour vous, c'est évidemment pas le cœur de votre revenu. Et puis, vous avez finalement, votre modèle économique fait que vous avez tout à fait intérêt à satisfaire vos abonnés payants et gratuits finalement. Et on est un peu dans une économie intelligente et un cercle vertueux.
Tout à fait. Bon, alors déjà, évidemment, je ne vais pas toucher l'intégralité de ces revenus d'abonnement, puisque je travaille avec des éditeurs et il est tout à fait normal que les éditeurs avec qui je travaille, ils touchent une part significative, toute très significative de ces revenus. Voilà, mais sinon, c'est sûr que j'ai tout intérêt à fournir de bons conseils. Hein, ça. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai un profil d'investisseur qui j'aime pas qu'il y ait des ordres de bourse trop fréquents tous les jours. Donc ceux qui veulent vraiment un suivi avec des alertes tous les jours, acheter, vendre, je leur recommanderais d'aller vers d'autres auteurs que moi. Moi, je suis vraiment un investisseur long terme, donc... Je vais passer quelques heures par mois, je suis assez tranquille, je fais de longues recherches, je fais des recherches approfondies en amont, mais une fois que j'ai sélectionné une entreprise, c'est pas pour la garder une semaine.
Il y a une certaine sérénité aussi lorsqu'on vous suit, c'est-à-dire qu'on peut être sur le même rythme que vous et avoir relativement peu de changements avec une certaine sérénité, sauf vous le disiez en cas de crise majeure ou de changement majeur économique, où là vous donnez des consignes plus serrées dans le temps.
Et puis, j'ai pas non plus la prétention de vendre la lune, de dire que avec moi, on va faire 20% de gains par mois, parce que c'est ce qu'on voit, hein, malheureusement ou heureusement, je sais pas, sur certains sites. Et ça, bon, faut bien être conscient que, parce que j'ai des abonnés qui cherchent ça des fois, et faut bien être conscient que si quelqu'un avait une recette pour faire 20% par mois, ça, il la vendrait certainement pas, il n'en parlerait pas, il la garderait pour lui, parce que ce serait une telle anomalie de marché qu'il serait, avec 10 000 euros, à ce rythme-là, on est multimillionnaire en même pas 2 ans. Donc, c'est, si vous avez quelqu'un qui vous dit, moi, je vous prends une méthode pour faire 20% par mois de façon quasiment sûre, dites-vous bien que ça ne peut pas exister. Donc, on peut viser des taux à 15-20% par an, en moyenne, mais pas de façon systématique, sur le long terme, sur le marché action, mais j'ai pas la prétention d'aller au-delà non plus, quoi. Faut être raisonnable et réaliste. Mais il faut quand même viser, voilà, il faut essayer. Si on veut réussir à profiter de son épargne dans un délai raisonnable, on devrait avoir un objectif d'essayer d'avoir 15% par an sur le long terme.
Ce qui est déjà énorme. Merci Loïc Abadi d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir partagé cette passion qui vous anime et d'avoir parcouru ensemble votre parcours professionnel qui est inspirant et atypique. On reste bien sûr en contact et en fonction aussi de l'évolution économique pour refaire une prochaine émission dans l'économie intelligente. À très bientôt et merci d'avoir été avec nous.
Eh ben, c'était un plaisir et à très bientôt. Bien sûr, si vous avez des questions sur les développements économiques à venir, n'hésitez pas.
Et donc, je rappelle, on va rappeler votre site Loïc Abadi, avec un E à la fin, un B, un D, abadi.com, pour aller creuser toutes ces infos qu'on a évoquées ici, notamment secret, comprendre comment bien gérer son PEA. Alors, à très bientôt, Loïc Abadi. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Tous vos tubes préférés. Tous vos tubes préférés sur RPL 89.2.